Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani
wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmoni.
Chenni Beri.
Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Chères auditrices et auditeurs du studio Kalankou et du studio Tamani, bienvenue à ce forum ou encore au Grand Dialogue délocalisé. Après Gao au Mali, nos deux studios s'installent à Agadez, capitale de l'Aïr. Agadez, cette ville considérée comme plaque tournante de la migration, est située entre le Sahara et le Sahel. En 2019, près de 17 000 migrants ont été assistés par l'Organisation internationale pour la migration dans le cadre du retour volontaire. La gestion du flux migratoire dans la région d'Agadez, comment faire face aux différents défis, c'est le thème de cette émission. D'où viennent-ils ces migrants? Quel est l'état du lieu actuel du flux migratoire? Quels sont les défis? Quelles sont les solutions pour une migration sûre? Pour en parler, nos invités, Azawa Maman, chargé de communication à l'OIM Agadez, Seydou Maman, point focal de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Malheureusement, il ne sera pas avec nous. Il vient de l'annoncer. Amadou Oumarou, secrétaire général des ex-prestataires de la migration. Pour la présentation de l'émission, je suis Alkia Touré du studio Tamani Mali avec mon confrère Alassane Kouzi Mahamadou du studio Kalankou Niger. Le Niger a adopté en 2015 une loi qui réglemente la migration irrégulière et le trafic illicite de migrants. Si pour certains, cette mesure a contribué à réduire le flux migratoire, pour d'autres, cela remet en cause le droit à la mobilité. C'est l'avis de Seydou Hassan, qui est le coordinateur régional Alternative Espace Citoyen Agadez. Nous vous proposons de l'écouter.
Aller en Algérie ou en Libye, ça, c'est la forme de migration que les gens ont toujours pratiquée et continuent à pratiquer. Mais ces gens qui vont en Libye, en Algérie, tout ça, nous disons, ça participe vraiment de ce droit des gens à la mobilité. Maintenant que les gens se prémunissent de leurs documents administratifs pour pouvoir passer, là, c'est un autre problème. Mais toujours est-il qu'il faut constater qu'ici, à Agadez, depuis l'adoption de cette fameuse loi contre la traite des personnes, Agadez est devenue pratiquement la frontière entre les pays subsahariens et les pays du Nord. Ils ne vont pas tous en Europe. Pourtant, c'est une politique européenne qui fait en sorte que ces gens-là sont bloqués ici à Agadez.
Voilà, vous venez d'écouter donc Seydou Hassan, qui est le coordinateur régional Alternative Espace Citoyen Agadez. Voilà, je commence tout de suite avec vous, monsieur Azawa Maman. Vous êtes chargé de communication à l'OIM Agadez. Est-ce que vous pensez que tous les candidats à la migration ont pour objectif d'aller en Europe?
Merci Radio Kalangou de nous donner cette opportunité pour participer à ce débat délocalisé. Comme vous le disiez, ça a été fait à Gao. Et aujourd'hui à Agadez, vous voyez, c'est deux villes qui ont un point commun qui est le Sahara. Et je pense que pour revenir à la question, d'abord je m'en vais décliner les objectifs de l'OIM, le travail que nous faisons. Et l'OIM, c'est une agence des Nations Unies chargée de la migration qui a pour mandat d'assister et de protéger les migrants en transit ou au retour vers la Libye ou l'Algérie. Et nous avons mis en œuvre depuis 2015 un vaste programme qui s'appelle le mécanisme de ressources et de réponse pour les migrants, qui s'appelle MRM, qui est financé en majeure partie par l'Union européenne. Ce mécanisme est composé de 7 piliers et vise à contribuer à la promotion d'une migration sûre, digne pour le peuple autochtone, ainsi que et d'appuyer les efforts du gouvernement nigérien pour élaborer une approche efficace de flux migratoire. La première approche que nous faisons, c'est d'assister les migrants qui sont déposés au niveau des frontières à travers l'assistance humanitaire à Samaka, mais aussi et dans nos centres de transit, nous assistons ces migrants et avec aussi les sensibilisations que nous faisons. Donc, du coup, pour répondre à la question, il y a deux types de migration. Il y a les migrants qui sont des migrations internes, une migration interne qui se fait des villes, des villages vers les villes, des migrations circulaires, et à la migration transfrontalière. Et beaucoup des migrants que nous assistons, ou bien des migrants que nous captons à travers nos flux migratoires, et partent vers la Libye et l'Algérie. Et du coup, on ne peut pas dire que tous ils vont vers l'Europe. D'autres s'arrêtent dans des villes de transit, comme Agadez, comme Alger, comme Libye, pour travailler comme saisonniers pour y revenir. Il y a d'autres qui empruntent la Méditerranée pour aller vers l'Europe.
Voilà. Monsieur Amadou Oumarou, est-ce que vous pensez que le droit à la mobilité est remis en cause ici à Agadez?
Merci. Merci effectivement à la radio Kalangou de nous avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui pour expliquer un peu ce qu'on pense par rapport à la mobilité de ces migrants. Nous, la migration ici, vraiment, c'est un phénomène que la région a connu pendant des années. Donc, la migration, c'est une activité d'abord qui, effectivement, a boosté l'économie de la région d'Agadez. Parce que autant la migration, nous, on ne pense pas que c'est un truc qui est illicite. Parce que c'est reconnu par l'État. Des gens, ils passent à l'autogare avec toutes les formalités. Et il y a même des cabinets de courtage après la conférence nationale. Vous savez, le transport a été privatisé, où il y avait des sociétés de transport. Donc, les gens, ils ont créé des cabinets de courtage pour mener cette activité. Donc, je ne pense pas que vraiment c'est une mobilité, c'est un droit vraiment pour la personne de se déplacer.
Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que ce droit aux personnes de se déplacer est en train d'être entravé?
Mais bien sûr, le droit est en train d'entraver parce que la plupart de ces ex-prestataires pour la migration ont arrêté. Parce qu'il y a une loi qui est là, qui a été mise en œuvre. Donc beaucoup de ces ex-prestataires ont renoncé effectivement à cette activité, à l'attente d'une alternative qui a été promise par l'État et le partenaire.
Alors, sur cette question du droit à la mobilité, le gouverneur d'Agadez estime que le gouvernement veut assurer la protection des migrants et la sécurité du pays. Écoutons Sadou Soloke, gouverneur de la région d'Agadez.
Il faut retenir que le Niger n'a rien contre la migration en tant que telle. Mais le Niger est contre la migration irrégulière, illégale et clandestine, parce qu'elle expose ses acteurs eux-mêmes. La loi a été promulguée, l'État nous a instruits de son application, ce que nous avons fait, toujours dans l'esprit souvent rappelé du président de la République, la question morale et la question de la sécurité, parce que pour nous c'est un peu lié. La question morale, c'est les souffrances et les morts que j'ai évoquées. Et la question de sécurité, c'est que c'est des choses liées. Quand on amène des migrants en Libye, on s'arrange pour acheminer aussi de la drogue, parce que ça paye bien là-bas. Et quand on revient souvent avec des armes, parce que ça paye bien. Donc tout ça là est lié. Il se trouve que les jeunes ou les personnes qui franchissent ces frontières ne sont pas en règle pour passer la frontière. Donc le Niger s'est trouvé dans son droit de stopper ce trafic parce qu'il ne convenait pas aux règles pour franchir la frontière d'un autre pays. Il nous a été reproché quelquefois d'enfreindre à la libre circulation des personnes et de leurs biens, ce qui n'est pas exact. Et je vous dis que nous avons reçu la CEDEAO à Agadez et nous avons reçu l'UEMOA. Et dans les deux cas, personne n'a établi que le Niger a violé les textes communautaires de libre circulation des personnes et des biens.
Voilà, avant d'arriver à l'OIM, Amadou Oumarou, vous représentez les ex-passeurs. Êtes-vous d'avis avec le gouverneur que des vies sont préservées grâce à cette loi?
Oui, effectivement, comme l'avait dit le gouverneur, Donc c'est vrai, la loi là, a réprimé des migrants qui sont irréguliers. Mais je ne suis pas dans les contraintes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. On ne peut pas nous dire que tous ces bas mondes qui se déplacent et n'ont aucun document. Ça, je ne suis pas sûr de ça, parce que la plupart de ces migrants, c'est des migrants de la CEDEAO. Ils détiennent leur passeport. Des pays d'origine, ils se déplacent et ils traversent tous les pays de CEDEAO jusqu'ici. C'est à partir d'ici qu'il y a ces problèmes-là. Donc, l'arrivée massive de ces migrants, on ne peut pas dire que tout le monde n'a pas un document de voyage. Ce qui est sûr, il y a ceux qui ont leurs documents en bonne et due forme, mais ici, la loi n'a pas raté personne. Donc, la loi, là, a été mise en œuvre pour ceux qui ont les documents et même ceux qui n'ont pas les documents.
Et le gouverneur dit que, en tout cas, c'est pour préserver des vies, parce qu'on sait qu'à un moment, dans le désert, beaucoup de gens sont abandonnés, meurent dans le désert.
Oui, effectivement, ça, je n'en disconviens pas, parce qu'après la chute du régime de la Libye de Kadhafi, donc le transport, là, c'est vrai, c'est devenu ce que c'est devenu, parce que c'est des étrangers, même des véhicules étrangers qui viennent ici transporter des gens, et qui n'empruntent pas la route principale. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait tout cet incident-là sur les routes. Maintenant, pour préserver cet incident, c'est pourquoi maintenant le gouvernement a mis en place une loi pour sauver la vie des gens qui sont là en train de prendre les risques et mourir dans le Sahara.
Monsieur Azawa Mahman, qu'avez-vous constaté sur le terrain depuis l'entrée en vigueur de cette loi?
Et l'application de la loi 36/2015 qui a été appliquée par le gouvernement nigérien à notre niveau, au niveau de l'OIM, nous n'avons pas pour mandat de critiquer ou bien de mettre en œuvre les lois nigériennes, d'autant plus que notre mandat nous l'exige. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut noter, c'est que l'application de la loi a diminué les flux migratoires au niveau des deux frontières, notamment de la Libye et de l'Algérie. Et si vous notez, par exemple, en 2016, déjà, juste avant l'application de la loi, les flux, nos points d'identification de flow monitoring, parce que nous avons une unité de flow monitoring qui identifie les migrants qui sortent et les migrants qui sortent. Nous avons en 2006 noté le flux sortant qui était d'un peu plus de 300 000 personnes qui sortent de la frontière et un peu plus de 100 000 personnes qui entrent dans la région d'Agadez. Et avec l'application de la loi, en 2018, vous avez le flux sortant sont ramenés à environ 100 000. Et les rentrants sont amenés à environ 80 000. Donc cette année, en 2019, nous avons identifié un peu plus de 200 000 personnes qui sortent de la région d'Agadez à travers Arlit et la frontière à Samaka et Durkou, mais aussi un peu plus de 100 000 qui sont entrés. Voyez-vous, l'application de la loi a permis effectivement de diminuer ce flux des migrants, mais ce flux aussi, en diminuant, avait aussi comme constat amené les ex-passeurs ou bien les passeurs qui sont en activité à créer des voies de contournement. Et ces voies de contournement sont très dangereuses pour les migrants, et ce qui nous a permis au niveau de l'OIM à créer cette activité, une unité entière qui s'appelle Sauvetage et Recherche des Migrants, les SAR. C'est des activités que nous faisons pour sauver les migrants qui sont en détresse, les migrants qui ont été soit abandonnés par les passeurs, les migrants qui sont soit égarés parce qu'ils empruntent des routes de contournement qui ne sont pas des routes balisées Ce ne sont pas des routes où, quand vous tombez en panne, quelqu'un peut passer pour vous aider. Donc, c'est tous ces paramètres et cette complexité qui nous permet aussi de travailler dans ce sens.
Bien. Monsieur Amadou Oumarou, secrétaire général des ex-prestataires de la migration, quel est votre avis par rapport, en tout cas, au changement observé avant et après la mise en vigueur, l'entrée en vigueur de cette loi?
Oui, effectivement, la mise en place de la loi là, a fait que la migration, les flux là, a diminué. Parce que même s'il y a la contribution de l'État avec la répression, mais il y a aussi les ex-prestataires qui ont renoncé à cette activité et qui sont vraiment un nombre très important, ceux qui font cette activité et qui ont renoncé. Donc ça aussi, s'ajoute un peu la diminution de ce flux migratoire. On peut avoir quelque part, parce que il y a certains qui ont peut-être repris cette activité, comme l'avait dit Azawa de l'Oyum, qu'il y a d'autres ont créé de nouvelles axes de contournement. Là, on peut dire que vraiment quelque part ça continue. C'est que, comme la reconversion de l'État là, la reconversion a pris une très grande lenteur.
Donc, c'est un point commencé sur lequel nous allons venir, M. Ahmad Oumar, si vous voulez bien.
Oui, d'accord.
Oui, nous allons revenir un peu plus en détail par rapport à cette question de reconversion. Alors, M. Azawa Maman, comment l'OIM gère le cas des réfugiés de l'Algérie vers le Niger?
Le cas des réfugiés de l'Algérie vers le Niger, comme vous le savez, le refoulement a commencé à partir de 2014 suite à une demande du gouvernement nigérien au gouvernement algérien. Donc c'est une activité qui s'est faite entre les deux États. Mais l'OIM, conformément à notre mandat, nous portons assistance à ces migrants parce qu'ils sont en mobilité. Et ces migrants sont de plus souvent dans des zones très difficiles comme Assamaka, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, où le climat est rigoureux. Et l'OIM appuie ces migrants en soins de santé, en soins psychosociaux, en nourriture et en transport à un certain moment jusqu'au 30e convoi, et où l'État nigérien a repris les transports. Et les transports se faisaient avec les véhicules de l'OIM, les véhicules de CICR et de Croissant Rouge algérien, qui les amenaient au niveau des points zéro. Et de Assamaka, les transports se faisaient jusqu'à Arlit, où le Niger prend les relais jusqu'au village d'origine. Donc nous, en tant qu'OIM, nous assistons le gouvernement nigérien à travers ce que j'ai cité précédemment, mais aussi sur les sites. Il y a un site dédié uniquement à ces migrants qui reviennent d'Algérie, des migrants nigériens qui reviennent d'Algérie. Et l'OIM appuie ce site. Par exemple, nous avons appuyé à clôturer le projet de clôture de ces sites. Mais aussi, nous appuyons le comité, les dispositifs de gestion et prévention des catastrophes à travers les NFI. Donc, voilà ce que nous faisons à ce site.
Alors, on sait que ces gens, quand ils viennent, ils sont composés. Il y a des nationaux, c'est-à-dire des Nigériens, et il y a des expatriés. Et comment se fait la répartition?
C'est ça, je te disais ça en connaissance de cause, parce que j'étais de bout en bout, depuis le début de cette expédition, j'étais là. Et en tant que travailleur de l'OIM, j'ai géré le centre de transit de Arlit quand le premier convoi des Nigériens refoulés d'Algérie a commencé. Et j'ai suivi ce flux jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ce n'est pas depuis le début que les migrants de nationalité non nigérienne ont commencé à être expulsés. Les migrants de nationalité non nigérienne ont commencé à être expulsés à partir de fin 2017, où le gouvernement algérien a commencé à déposer les migrants non nigériens au niveau de point zéro. Donc c'est l'OIM, à travers notre équipe avancée à Samaka, qui part au point zéro et qui prend ces migrants et les amène à notre Rebol au niveau de Assamaka, où les assistés, et on les transporte jusqu'au pays d'origine à travers nos centres de transit. Donc il faut noter qu'il y a des cas dans ce point-là.
D'accord. Mais sur le terrain,
Généralement, quelles sont les nationalités, je vais dire, les migrants non-nigériens que vous rencontrez?
Les migrants non-nigériens, les nationalités les plus rencontrées, nous avons des nationalités maliennes qui sont à peu près jusqu'à 30%, les nationalités Guinée-Conakry qui sont à peu près 18%, Côte d'Ivoire 6% et autres nationalités 46%.
Donc, sinon, vous avez mentionné en tout cas des programmes d'appui pour les réfugiés nigériens. Est-ce que c'est le cas pour les autres nationalités aussi?
Oui, nous, comme je l'ai dit, notre mandat, nous assistons les migrants tout court, sans discrimination. Que ce soit nigérien, que ce soit non-nigérien, nous assistons ces migrants qui sont volontaires au retour et dans leur pays d'origine à travers nos centres de transit. Il faut noter que nous avons 3 centres de transit dans la région d'Agadez, à Dirkou, à Samak, Arlit, et à Agadez, où nous avons le plus grand centre qui a une capacité de plus de 1000 places. Il faut noter que nous ne travaillons pas que sur l'assistance directe aux migrants. OIM, à travers certains programmes comme la stabilisation communautaire, comme AIBM, et comme des projets de réintégration, nous basculons vers le relèvement, vers le développement, pour appuyer le gouvernement nigérien à travers leur PDC, à travers leur PDR, à rehausser leur capacité de gestion et des services de base au niveau des communautés et au niveau des migrants qui sont en transit.
Ok, merci M. Azawa. Monsieur Amadou Oumarou, secrétaire général des ex-passeurs, bien ex-prestataires, quelle est la situation des ex-prestataires de la migration actuellement à Agadez?
Non, la situation de ces ex-prestataires au stade actuel où nous sommes, ils sont là, ils sont désœuvrés. Après la loi où les gens ont mis fin à leur activité, à l'attente d'une suite, et que jusque-là, la suite-là n'est pas favorable. Donc ils sont là en train d'attendre.
Alors, écoutons le gouverneur d'Agadez sur le cas des ex-passeurs, notamment, qui sont arrêtés.
Moi, personnellement, c'est ce qui m'a peiné dans cette affaire, parce que les gens que nous avons dû poursuivre, ce sont des Nigériens. C'est des Agadésiens même, on peut dire. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut rien faire du migrant, juste on le décourage. Mais malheureusement, ceux qui ont enfreint la loi, c'est les nôtres. La loi, c'est la loi, comme on dit. J'espère qu'on a un peu rattrapé le coche, parce que lorsqu'il s'était agi de vendre les biens confisqués, je pense qu'il a été possible de les intéresser, eux, les premiers propriétaires, pour voir dans quelle mesure on peut les aider à se relever.
Pour que ces gens puissent retrouver une autre activité, il y avait des plans de reconversion qui ont été proposés. Beaucoup d'acteurs ont évoqué à un certain moment que ces plans de reconversion ne répondaient pas aux attentes.
Ce qui s'est passé, c'est un très faible nombre de ces jeunes qui ont été intéressés par les projets d'accompagnement à la reconversion. Mais on nous a expliqué que c'était un accompagnement pilote qui a pris fin, qui a été évalué et qui est positif. Donc, il va être reconduit. Nous avons de très bonnes nouvelles en ce qui concerne la reprise et la poursuite des plans de reconversion.
Voilà, justement, M. Amadou Oumarou. Monsieur Amadou Oumarou, concernant le plan de reconversion, quel est le bilan à votre niveau?
En tout cas, le nombre de ces ex-prestataires tourne autour de 5565 personnes, ex-prestataires qui sont enregistrés au niveau de la région. Et sur ce, il y a 980 qui ont été financés. Donc ça, c'est la phase 1 plus la phase 2 qui est en cours, effectivement, tout incessamment. Donc, il reste à peu près 5585 personnes qui attendent ce plan de reconversion.
Donc, à ce stade, si j'ai bien compris, tous les ex-prestataires n'ont pas bénéficié du plan de reconversion.
Voilà le chiffre. Je vous donne une grande majorité. Donc, le projet a juste un projet pilote. Et donc, n'a touché que à peu près 3% du nombre de ces ex-prestataires.
Selon vous, quelles sont les failles du plan de reconversion qui a été proposé aux ex-prestataires de la population?
Bon, c'est-à-dire que c'est un micro-projet qui a été proposé aux gens, un micro-projet à base de 1 500 000. Il y a d'autres qui ont postulé sur les taxis moto et d'autres sur une boutique d'alimentation générale. Et d'autres sur le maraîchage. Donc, c'est surtout un montant de 1 500 000 pour ce projet pilote. C'est ce qui a été proposé vraiment à ces ex-prestataires.
Selon vous, qu'est-ce que vous proposez concernant cette situation, bon, concernant toujours le plan de reconversion?
Nous, pour ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de propositions. Vous savez, la région d'Agadez, ici, là où nous sommes, c'est-à-dire c'est une région qui regorge beaucoup de potentialités dans la région, où il faut vraiment créer des petites et moyennes entreprises, où il faut beaucoup employer les gens pour avoir une activité. Par exemple, nous avons des dattes ici à Vilma, il y avait des natrons, il y avait des oranges un peu partout dans les zones de culture, où il faut créer vraiment des petites et moyennes entreprises où on peut embaucher 1000 personnes dans cette entreprise. Même autant, la Libye a contré la migration à travers ces genres de la création des emplois. Sinon, si c'est sur ce plan de petit plan de reconversion, moi je pense qu'on ne peut pas vraiment, c'est bon, mais ça, on ne peut pas vraiment atteindre l'objectif.
Alors, Monsieur Azawa Maman, chargé de communication à l'OIM, quelles sont au niveau de l'OIM les alternatives proposées aux migrants en dehors du retour, en tout cas de cette proposition de retour volontaire dans les pays d'origine?
Les alternatives liées à la migration régulière, en dehors de l'assistance que nous faisons dans nos centres de transit, sont entre autres les sensibilisations que nous faisons auprès des migrants qui sont dans les ghettos, qui sont dans les gares, qui sont sur les routes migratoires. Nous les sensibilisons sur les dangers de la migration irrégulière et nous leur proposons des alternatives liées à cette migration irrégulière, et notamment la réintégration. Et nous faisons de la réintégration dans les pays d'origine, en collaboration avec les pays d'origine, et aussi en collaboration avec les États du pays d'origine. Ce qui fait qu'en décembre 2019, nous avons eu à réintégrer plus de 1000 migrants qui ont été assistés dans les centres de transit et dans leur pays d'origine. Et nous faisons aussi des renforcements des capacités en gestion des migrations en faveur du gouvernement nigérien à travers 8 protocoles d'accord que nous avions signés pour aider le gouvernement à juguler les flux migratoires mixtes et complexes.
D'accord. Et vous avez parlé de quelques alternatives. Est-ce qu'il vous arrive à travailler, je ne sais pas, avec les ambassades? Par exemple, chez nous, disons ici, on a quelques sources qui disent que tu peux trouver, par exemple, un Malien, disons, une autre nationalité avec des documents maliens. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer ce genre de cas sur le terrain?
Oui, c'est ça, je disais, le renforcement des capacités et la collaboration avec les États membres où les migrants sont de retour. C'est dans nos centres de transit où, pendant l'assistance, nous travaillons en collaboration avec les ambassades et les consulats, notamment qui nous donnent des laissez-passer, qui certifient que les migrants sont effectivement d'origine de ces pays et qui nous donnent des laissez-passer pour faire les mouvements. Tant que nous n'avons pas la certitude que le migrant n'est pas affilié à son pays d'origine, il ne peut pas partir. Comme vous le savez, la plupart des migrants qui viennent au niveau de nos centres de transit, à peu près plus de 60%, n'ont pas de documents fixes. Soit les documents ont été confisqués, soit les documents ont été perdus ou autres, mais ils viennent dans les centres de transit sans pour autant avoir de documents. Donc c'est à nous, à l'OIM, de les aider à acquérir ces documents à travers les ambassades, à travers le consulat, et qui nous donnent ces papiers. Et ce qui fait que des fois, la durée de séjour des migrants dans les centres de transit varie. Et si le migrant a des documents complets, il peut faire une semaine, à 2 semaines. Mais si le migrant n'a pas de documents, il faut qu'on ait la coordination avec l'ambassade. Et les ambassades aussi ont d'autres choses à faire. Donc, du coup, ça traîne un peu. Et puis, les migrants prennent beaucoup de temps dans les centres de transit. Ce qui fait que des fois, nous avons des migrants qui sont pressés même de partir chez eux. Et il faut qu'ils attendent les documents.
Oui, toujours parlons des migrants. Monsieur Amadou Oumarou, un peu plus tôt, on a parlé des axes de contournement. Par, disons, par des ex-passeurs. Est-ce que vous avez connaissance de certains de ces axes et si vous pouvez partager ces points avec nous, au cas si vous avez connaissance?
Non, moi, je n'ai pas du tout la connaissance de ces axes-là. Les axes-là, ils sont nombreux parce que Agadez, c'est une région qui est vaste. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que vraiment on connaît certains lieux parce que c'est des lieux qui ne sont pas connus, qui ne sont pas pointés. Donc, sauf ceux qui empruntent la route, peut-être eux aussi, ils travaillent souvent avec le GPS. Parce que c'est un Sahara, il n'y a pas un endroit où on dit que tel endroit, c'est tel endroit. Et c'est des communes qui ne sont pas reconnues, donc il n'y a aucune commune, il n'y a aucun village. Donc, on ne peut pas dire que vraiment on connaît les axes.
Alors, pour revenir toujours par rapport au plan de reconversion dont on parlait, quelques-uns d'entre vous, les ex-prestataires, ont bénéficié d'un certain nombre, en tout cas, d'appui pour faire quelques activités. Aujourd'hui, parmi ces activités, lesquelles vous pouvez estimer a pu changer quelque chose dans la vie de ces gens qui ont pu bénéficier de ces aides?
Oui, effectivement, ici, on peut noter quelques personnes vraiment qui ont réussi quand même à évoluer. Et on peut noter quelqu'un qui a une entreprise de pain, qui fabrique le pain, je ne sais pas, un truc comme le pain du Nigeria. Lui, vraiment, il a évolué. Et il y a aussi ceux qui font les taxis motos. Ils aussi, ils ont évolué dans leur activité. Il y a quelque part aussi ceux qui font le maraîchage. Ils ont vraiment aussi réussi vraiment à leur activité. Voilà quelques-uns que j'ai retenus, des secteurs que j'ai retenus qui sont vraiment, qui sont évolués vraiment dans le plan de reconversion.
Sur ce nombre qui a été assisté, vous pouvez quantifier le nombre de réussites, entre guillemets, si on peut le dire, par rapport à ceux qui ont eu des difficultés?
En tout cas, par rapport à ce plan, beaucoup ont réussi. Dire vraiment, 80% ont réussi à ce plan de reconversion parce que c'est des gens qui sont concentrés. Comme il n'y a aucune activité, ils se sont vraiment retenus à cette activité. Donc, on peut dire il y a une réussite à 80% de ce plan de reconversion.
S'il y a quelque chose que vous reprochez au plan de reconversion, ce serait quoi?
Ce que je reproche, c'est la lenteur parce que c'est tout un tas de processus avant d'avoir ces articles-là. Donc, il faut vraiment accélérer, parce que s'il faut réactualiser la liste de ces ex-prestataires, faire un DAO, lancer le marché, c'est un truc qui prend beaucoup de temps, beaucoup de retard, et il y a des gens qui sont là en train d'attendre ce plan de reconversion quand ils sont sur la liste d'attente. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est d'accélérer le processus.
Alors, dernière question pour terminer avec vous. Vous dites que c'est cette lenteur, vous indexez cette lenteur. Aujourd'hui, pour les cas de 5000 autres personnes qui n'ont pas pu bénéficier de l'appui, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
En tout cas, j'ai dit ça tout à l'heure. Déjà là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont devenus des chômeurs, ils sont des œuvrés, ils sont là toujours, en pensant que vraiment il y aura une alternative à leur faveur. Donc ils attendent ce plan de reconversion jusque-là.
D'accord. Avant de clôturer cette partie, M. Azawa, est-ce que l'OIM a un rôle à jouer concernant le plan de reconversion?
Concernant le plan de reconversion, l'OIM n'a pas un rôle à jouer dans cette partie parce que le financement était déjà acquis et les prestataires des services ont été déjà identifiés. Je pense que sur les plans, sur les projets EITF, c'est l'ONG Carcara et HACP qui ont eu cette prestation de services pour aller identifier les migrants et les prestataires de services pour ça. Donc OIM n'a pas été associé
à cette question.
Je voudrais ouvrir une parenthèse, M. Azawa Maman, par rapport à ces migrants que vous accueillez, que vous assistez. On avait échangé avec vous quelques documents. Il se trouve que parmi ces gens, il y en a parmi eux des gens qui ont été victimes de traite de personnes, notamment des femmes et des enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner les proportions?
Vous savez, c'est des cas de protection. C'est des personnes qui ont été déjà victimes de viols, de tortures, comme vous le dites. Et nous ne pouvons pas nous prononcer sur leur cas, sur leur truc. C'est des protections de données. Il faut vraiment protéger ces gens. Mais sinon, nous avons une unité protection qui travaille effectivement sur ces cas et puis en collaboration avec les services étatiques, notamment la justice nigérienne. Nous travaillons avec l'ANLTP, Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, et nous travaillons dans ce sens.
Est-ce un grand nombre?
Et les nombres sont au prorata du nombre de migrants qui sont acquis. Donc on ne peut pas dire exactement, voilà, les nombres, c'est au niveau de la protection de nous dire. Même moi qui travaille, je ne travaille pas de la protection, donc je ne peux pas vous dire les nombres.
D'accord. Voilà, nous entamons la dernière partie de cette émission. Certains acteurs pensent que la répression n'est pas la meilleure solution à la migration. C'est le cas de Seydou Hassan, il est coordinateur régional Alternative Espace Citoyen Agadez. Écoutons-le.
Mais s'ils veulent protéger ces gens-là des malfrats sur les routes, ils n'ont qu'à mieux organiser leur départ et les encadrer jusqu'à bon port, disons-le comme ça. Le fait de criminaliser la migration, ça n'empêche pas les gens de partir. Ça rend la migration plus dangereuse parce que les gens passent par des voies plus dangereuses.
Voilà, nous venons d'écouter Seydou Hassan, coordinateur régional alternative Espace Citoyen Agadez. Monsieur Azawa, selon vous, quelle pourrait être la solution à la question de migration ici à Agadez?
La solution par rapport à
la gestion.
À la gestion. Bon, pas à la gestion, je pense la solution par rapport à la migration irrégulière.
Oui, bien
Moi,
sûr.
Moi, je pense que ça va passer inéluctablement par les sensibilisations. Il faut qu'on renforce les sensibilisations, il faut qu'on renforce les dialogues entre et les migrants et les communautés hôtes et les autorités nigériennes et ces ex-passeurs pour qu'on ait ensemble la solution.
Alors, Monsieur Ahmad Oumarou, pour vous, la solution passera par quoi? Non seulement pour ces milieux de jeunes migrants qui sont toujours sur le départ et pour les ex-prestataires.
Bien. Vous savez, il y a eu pas mal de propositions par rapport à cette question, même sur les migrants. Parce que la migration, même s'il y a la migration transfrontalière, il y a la migration circulaire qui est aussi un phénomène très complexe. Par exemple, ici, chaque semaine, ici au niveau de la région d'Agadez, il y a des Nigériens qui partent. Nous, on a observé un grand flux migratoire où il y a 70 véhicules qui quittent chaque mardi ici pour à destination de la Libye, où chaque véhicule transporte 20 passagers à bord.
Nigériens.
Ce qui fait d'ici 4 mois, on a observé par mois 5600 personnes qui quittent ce pays-là pour aller à la migration. Donc, ça veut dire que quelque part, ça ne va pas. Ce pays-là, vraiment, il faut que l'État et ses partenaires viennent voir comment est-ce qu'il faut vraiment créer des emplois à la jeunesse, parce que ici, les gens, il n'y a aucune activité que les gens font, à part je sais pas, deux fois la saison pluvieuse ne donne pas. Il y a eu plus de combien de villages dont la saison pluvieuse n'a pas donné. Donc ces jeunes-là qui migrent de trop, ça peut même créer beaucoup d'insécurité dans les zones, le chômage. Ici, il n'y a pas la Libye, il n'y a pas l'Algérie, et il y a aussi le site aurifère qui a été formé, et il y a aussi les mines qui ont été aussi formées, et c'est des jeunes qui travaillent. Donc vraiment, la situation là est très mécontente. Donc il faut chercher à revoir pour créer des opportunités aux gens pour qu'ils travaillent. Parce que maintenant, nous sommes confrontés vraiment à une question de paix et sécurité. Moi, je pense que l'État et ses partenaires doivent se réveiller pour trouver autre chose à ces gens-là pour qu'ils travaillent, pour qu'il y ait une stabilité dans la région ou bien dans le pays.
Merci beaucoup, M. Amadou Marou. Et c'est la fin du forum du Grand Dialogue délocalisé ici à Agadez sur le thème « La gestion du flux migratoire dans la région d'Agadez. Comment faire face aux différents défis ?» Cette émission vous avait été présentée par Alassane Kouzima Amadou du studio Kalangou Niger et Arkia Touré du studio Tamani Mali. Nous étions en compagnie de nos invités Azawa Maman, qui est chargé de communication à l'OIM Agadez. Et nous étions également en compagnie de Amadou Omorou, qui est secrétaire général des ex-prestataires de la migration. Merci à tous et bonsoir.